Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
La saison 2025 se poursuit, les amis, elle s'annonce plus folle que jamais. Il reste trois courses. 22e manche du championnat du monde, ce Grand Prix de Las Vegas qu'on va bien évidemment essayer d'analyser avant ce Grand Prix. Je vous rappelle que vous suivez toutes les courses bien évidemment sur RMC. Je vous rappelle également que vous avez tous les épisodes du paddock RMC qui sont disponibles si vous voulez encore nous écouter sur la remontada de dingue de Max Verstappen au Brésil, sur toutes les tensions qu'il peut y avoir chez McLaren. Les épisodes sont disponibles sur les plateformes de téléchargement. 5 petites étoiles également pour les notes, on attend vos notes à chaque fois, c'est super important pour nous. Ce warm-up du Grand Prix de Las Vegas, on le disait, ça lance vraiment ce sprint final aux États-Unis sur un Grand Prix qui est très particulier à chaque fois par la température, par le fait que ce soit le tracé le plus récent au calendrier du championnat du monde de Formule 1. On va se plonger dans ce Grand Prix avec nos ingénieurs. Louis Gerbier est de retour. Salut mon Louis.
Salut tout le monde.
Est-ce que comme les pilotes de Formule 1, ça t'a fait du bien cette petite coupure?
Ah bah beaucoup, beaucoup. Là, je suis prêt pour aller
t'as
chercher le
jus,
championnat.
Comme on dit.
Ouais.
Ah
ouais.
Bah
ouais.
J'en doute pas.
J'ai refait du jus avec des bubules de champagne.
Notre ingénieur technicien en chef, c'est Séraphin Bette. Salut Séraphin.
Ouh là là. Salut Nico.
Ah ben maintenant, mon gars, t'es la caution technique du podcast. Hein, moi, je te le dis. Il y a Jean-Luc et il y a toi. Nous, après les freins, tout ça, on maîtrise moins. Ça, c'est ton domaine.
Mais je suis encore dans une saison de rookie, donc j'apprends encore.
Mais bien évidemment, on est
un peu. Il va être rookie of the year ou pas?
Ah, possible. En même temps, il y a Tristan, il y a Séraphin. On fera peut-être une élection en fin de saison sur la page RMC Formule 1. Ça peut être rigolo. C'est un truc très malsain. Je vous rappelle, je vous parle de la page Instagram RMC Formule 1 que, si vous voulez suivre les actus du paddock RMC, du paddock Pass également, l'émission des Pistonnés qui est disponible sur YouTube. Toutes les actus un peu Formule 1, voilà, il y a plein de contenu. Vous abonnez à la page Formule 1. C'est en train de cartonner d'ailleurs, hein. On vous a préparé une petite, un petit réel Instagram, comme on dit, sur le chat qui s'appelle Formula qui a sévi à Bakou en Azerbaïdjan. C'était quand ça? Quand est-ce qu'il y a eu cette polémique avec Charles Leclerc et ce fameux chat?
Il y a deux ans,
Bakou,
je crois.
Ouais. Il y a deux ans. Allez voir cette histoire parce que c'est rigolo.
On le reconnaît vachement bien.
C'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais. C'est le chat. C'est sûr, on peut pas
c'est
vous
The One.
Plus.
C'est le chat de Bakou.
Abonnez-vous à la page Instagram RMC Formula 1. Les gars, c'est parti. On se plonge dans ce Grand Prix de Las Vegas. Je le disais, Grand Prix particulier, il y a plein de spécificités à Las Vegas. Je vais vous donner un petit peu les grands points forts et les grands moments de ce week-end. C'est un Grand Prix qui se déroule la nuit. Pour le coup, les gars, pour nous, c'est pas top. Pour suivre tout ça, faut se lever. Alors attendez, si je me retrouve. Voilà, la première séance d'essai libre à 1h30 du mat, cette nuit. Deuxième séance à 5h du matin. Dans la nuit, de vendredi à samedi, vous avez les qualifications à 5h du matin et donc la course ce dimanche à 5h du matin heure française, donc il faut se lever très très tôt. Ça vaut bien évidemment le coup de se lever parce que on se dit que ça peut être la course fatale pour attribuer le titre de champion du monde des pilotes. Lando Norris qui a désormais 24 points d'avance sur son coéquipier Oscar Piastri, Max Verstappen qui a 49 points, donc les écarts qui commencent à être assez importants et donc tout peut se décanter ce week-end à Las Vegas. Séraphin, juste sur la spécificité de ce Grand Prix, on le disait, c'est une course spéciale parce que déjà les températures font que c'est la seule course de l'année en fait où on va rouler dans des températures aussi froides.
Tu as raison, même si je pense aussi au Japon quand même, Suzuka, où souvent il fait très froid.
Mais j'ai l'impression que là c'est une constante à Las Vegas, à chaque fois tu sais que tu vas te retrouver sur une météo et des températures froides.
Oui, et en plus il faut rappeler quand même que, donc tu l'as dit, le Grand Prix de Las Vegas c'est la troisième année, on rappelle que autour c'est un désert. Donc en fait ce qui se passe c'est que dès que le soleil disparaît, ça refroidit très vite. Et effectivement c'est un froid qui est assez sec, hein. Donc oui c'est une particularité, déjà un circuit urbain, donc il fait partie de ces circuits, ces tracés, qui sont occasionnels, je cherchais le terme. Donc, c'est-à-dire que voilà, on roule uniquement là pour ce Grand Prix. On adapte carrément la ville, on le rappelle. Donc c'est particulier parce que du coup le tracé et à la fois l'environnement, voilà, il est unique. Et oui, des conditions fraîches, d'autant plus au vu de ce qu'on peut voir ce week-end. qui veut dire aussi que les pilotes doivent faire la différence pour justement chauffer d'abord les pneus correctement et ensuite les maintenir en température. Et évidemment, ça joue dans la dégradation. Donc, ça rajoute un enjeu supplémentaire à gérer, un challenge aussi pour les pilotes moins expérimentés, comme les rookies par exemple. Donc, ça rajoute une variable intéressante, ouais.
Ouais, il y a très peu d'appui en plus sur ce circuit, donc ça fait partie des spécificités. Et Louis, alors c'est un circuit sur lequel les Mercedes ont pris l'habitude de briller, notamment l'année dernière, il y a eu un doublé pour Mercedes. C'est vrai que l'année dernière, nous, on avait fait des analyses dans le paddock, on se disait, bah, Mercedes, ils sont capables de gagner dans cette température. Ils savent pas trop pourquoi, mais en tout cas, à chaque fois qu'il fait un peu froid, ça gagne. Donc en fait, c'est un Grand Prix où c'est difficile vraiment de dégager une hiérarchie avant de voir les premières séances d'essai, sachant qu'en plus la météo va être mitigée entre le vendredi et le dimanche. Les conditions vont pas être les mêmes. On attend de la pluie le vendredi. Visiblement, dimanche ce sera mieux, mais ça peut être encore changeant. Donc il est toujours très dur à lire en fait ce Grand Prix.
Ouais, et puis pour les pilotes, les ingénieurs, ça peut être un sacré bourbier, parce que ce que disait Séraphin, c'est vrai, c'est la seule fois de l'année où tu roules là-dessus en course, quoi. Sinon, c'est une ville. Et en plus, il fait très froid. Donc ce qu'on va avoir, c'est des gens très tendus tout le week-end et une manière de... Le gars qui se trompe le vendredi, ça peut être très compliqué, parce que comme les conditions, tu les auras pas de nouveau. Bah, tu ne vas pas pouvoir vraiment t'adapter, tu auras toujours un peu un temps de retard. Donc ça peut être un week-end très compliqué, mais surtout c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le circuit, le Grand Prix même, ça n'a jamais été la priorité, ça n'a jamais été vraiment la course. C'est un produit marketing. On a essayé de fagoter un circuit là, autour de cette ville parce que c'est cool, parce que ça rend bien, parce que ça va faire du blé. Mais la priorité n'a jamais été d'offrir aux pilotes une course, on va dire, optimale, incroyable, ou tout
excitante
ce qu'on veut. Quoi,
pour eux, ou excitante. Le plaisir de « oui, je pense pas qu'il y en ait beaucoup ».
Exactement. Donc souvent, on a entendu que bon, ils n'étaient pas réfractaires et qu'ils trouvaient le week-end plutôt sympa, bien que ça soit pas la piste du siècle. Mais je pense que de toute façon, il faut l'aborder un peu différemment. On sait qu'il est entré dans le calendrier pour des raisons autres, et c'est peut-être pas le seul d'ailleurs, pour des raisons autres que l'intérêt de la course. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Et puis là, toutes les conditions sont réunies, vous l'avez très bien résumé. Le froid, la piste mauvaise et sûrement la pluie, plus un temps qui change. Après, d'un point de vue spectateur, du coup, ça peut le rendre que plus intéressant.
Oui. C'est vrai, mais c'est là où moi je suis un peu partagé, parce que tu te dis que les conditions font que tu as une vraie incertitude autour de l'issue de ce Grand Prix, donc tu te dis il y a un côté cool, mais il y a quand même ce côté où tu te dis est-ce que ce serait pas dommage si Las Vegas, Séraphin, c'était le Grand Prix où voilà, tu avais Norris qui était titré, ou voilà, qui décidait de l'épilogue du championnat. Parce que c'est une course qui est tellement à part quand même dans la saison que tu restes un peu sur ce côté. Enfin, moi en tout cas, je resterais sur un petit. Tu vois, avec le Brésil qui a eu lieu il y a 15 jours, tu as envie que le championnat il se termine au Brésil parce que c'est un Grand Prix mythique, parce qu'il se passe toujours des choses. Si ça se termine à Las Vegas, on restera quand même un peu sur un goût d'inachevé. Moi, j'ai cette sensation-là.
Ouais, bah, par exemple, t'as raison de le dire, parce que si moi je me souvenais plus au début, mais l'année dernière, Max Verstappen avait été titré par exemple à Las Vegas. Voilà, oui, c'est sûr que ça va. Alors, tu l'as dit, ça contraste complètement pour le coup avec Sao Paulo le week-end dernier. On n'est pas du tout sur le même type de tracé. D'ailleurs, quand même rappeler que c'est un tracé qui est très long, qui fait 6,2 km. C'est le deuxième tracé le plus long de la saison après Spa-Francorchamps. Il y a une longue ligne droite aussi d'un kilomètre 9. Donc en fait, quand on regarde le tracé, il y a des longues lignes droites, il y a quelques virages qui sont très très techniques, notamment à la fin du premier secteur. Donc on est sur un genre de Monza si on veut, hein, parce qu'effectivement, même s'il y a des parties très très serrées. Et après, ouais, c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul. Je trouve qu'il y a eu que deux éditions qui ont été pas particulièrement incroyables. Il y avait la pole en 2023 et la victoire de Max Verstappen. Et l'année dernière, effectivement, l'épisode Mercedes. Voilà, pour l'instant, moi je rejoins Louis. Pour moi, la majorité de ce Grand Prix, il se fait pour les raisons marketing, pour les raisons business. Voilà, faire venir aussi une audience américaine, clairement, sur ce Grand Prix. Et pour moi, en second plan, ils mettent l'aspect sportif réel de faire un Grand Prix, parce que il y a trop d'avantages pour eux à faire un Grand Prix à Las Vegas par rapport. Alors que, je pense qu'ils le savent au fond que c'est pas une course. Ils essayent de nous le faire comprendre ou de nous donner cette image-là, mais c'est pas le cas.
Après, pour revenir à ce que tu disais, Nico, sur rester sur sa fin si on devient champion à Vegas. Il y a un côté, le côté pilote et les équipes, de faire la fête du titre à Vegas, ils doivent se dire que c'est peut-être pas là, que c'est pas le plus mal. Tu vois.
T'as raison.
Eux, ils se disent, dans le spectre
du spectateur,
C'est clair, parce que sinon, si tu peux emballer ça à Vegas et faire la soirée du titre à Vegas, je pense que les annonceurs, les équipes, les pilotes seront très contents.
Ah, que la soirée, hein, parce que le week-end d'après, tu renchaînes.
Ouais, mais quand t'es champion, tu peux faire deux soirées.
Quand t'es champion, mon gars, tu peux y arriver en tongs.
Tu vas aller chercher deux pilotes de ton équipe de formation en F2 là où je sais pas où. Tu les mets dans le baquet le week-end d'après.
Tu les mets sur les premières séances d'essai et puis toi tu te pointes. Mais bien sûr, on grossit le trait, mais c'est sûr que célébrer à Las Vegas, et même que je pense que même au niveau des sponsors, des équipes, ça doit être
un peu plus pour le coup,
tu préfères être titré à Vegas plutôt qu'à Bakou par exemple, c'est sûr que ça claque un petit peu plus. Les gars, est-ce qu'il y a des tendances selon vous qui se dégagent sur ce week-end d'un point de vue sportif? Bien évidemment, il y a cette lutte entre Norris et Piastri, on le répète depuis maintenant 15 jours, 3 semaines dans le paddock, il y a cette dynamique qui s'est complètement inversée avec un Lando Norris qu'on lancé et un peu inarrêtable, sauf souci mécanique, vous me dites si je me plante, mais on n'a pas trop l'impression ce qui peut être un petit peu un grain de sable dans la mécanique Norris, donc ça va être le véritable enjeu. Et puis il y a Max Verstappen qui doit rester dans le game un peu ce week-end, c'est ça aussi les gros enjeux de Vegas.
Bah lui le Grand Prix du Brésil fait que Max Verstappen, il a c'est ce soir ou jamais là. C'est-à-dire que si à Vegas ça se passe pas très bien pour lui, on pourra commencer à dire. De toute façon, c'est quelqu'un qu'on enterre qu'une fois que c'est mathématiquement fait. Avant, tu l'enterres jamais.
C'est vrai.
Mais quand même, on sent que là, la dynamique, comme tu l'as dit, Nico, elle part clairement chez Lando et ça a été une saison de dynamique. Il y a eu Lando qui a eu une dynamique très compliquée au début, Piastri une très bonne au début. Il y a eu un moment où Piastri était, on va dire, un peu moins brillant, mais toujours là. Et puis son effondrement un peu inattendu. Alors, les vases communicants, la coïncidence ou des aides qu'on n'aura jamais connues pour que Norris, lui, prenne le chemin inverse. Et finalement, la meilleure dynamique, c'est la sienne et au meilleur des moments, en fait, au money time, tu vois. Donc clairement, tu te dis que Verstappen, Piastri, finalement, ont autant de pression que Norris, voire plus, parce que eux, maintenant, ils ont vraiment besoin de terminer devant lui, impérativement, quand même. Parce que c'est vrai que quand tu reprends le classement, tu te dis, Norris, quand même, on est à plus de 20 points d'avance, quand même.
24 points.
Bah, 24 points. Alors, c'est pas une victoire, évidemment, hein, on le sait tous. Mais il peut même faire un zéro pointé dimanche et être encore dans le coup. Alors qu'un zéro pointé pour les deux autres dimanche, et ça sera finito, comme on dit.
Grosse pression sur Piastri et Verstappen.
Grosse pression sur Piastri et Verstappen. Et comme tu l'as dit, Norris, il peut se dire en gros, alors c'est peut-être jamais bon pour un pilote, mais en gros, je peux assurer ce week-end, quoi. Ouais, assurer peut suffire pour lui pour finir le week-end toujours en tête et sans se mettre Martel en tête. Paf.
Ah, c'est sûr. Ouais, on sent qu'on s'approche de la fin de
saison. Ouais, ouais, clairement. Le gars revient de vacances, il fait ça. Moi, je le virerais sur le champ.
Tu montes en puissance, toi. Ah, c'est énorme. On dit à Lando Norris. Ouais, Séraphin, non, il y a quand même ce truc avec. Moi, je reste sur Max Verstappen parce que Louis disait, il a raison, que si tu fais zéro ce week-end-là, c'est mort. J'ai quand même l'impression que dans les trois, s'il y en a un qui n'a pas de pression, c'est bien Verstappen. Depuis, peut-être depuis le break hivernal, parce qu'il revient de tellement loin, en fait, et on l'a vu au Brésil, il tente des manœuvres où il se dit, en fait, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Il a même dit à un moment à la radio à Lampiadze, je crois, au Brésil, où son ingénieur lui dit, vas-y, tranquille, et tout ça, mais il lui dit, mais j'ai rien à perdre, moi, j'ai rien à perdre, c'est soit je fais zéro, c'est fini, mais dans tous les cas, je pars de super loin, soit je fais un coup de génie, et je peux aller chercher le titre ou rester dans la bagarre. Donc lui, j'ai l'impression qu'il a rien à perdre, Verstappen.
Bah, tout à fait. En vrai, il n'y a pas grand chose à ajouter. Il a rien, tu l'as dit, de où il était il y a plusieurs courses et vu comment il est remonté sur, peut-être depuis 10 courses, il partait tellement loin. Et oui, bien sûr, mais c'est sûr qu'il n'a rien à perdre. je pense qu'il sent quand même que les chances commencent à s'éloigner, parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un miracle, entre guillemets, d'un Norris qui fasse un DNF, lui qui a réussi à en gagner plusieurs. D'ailleurs, s'il veut continuer d'être mathématiquement titrable, il faut que Lando Norris, s'il gagne, il finisse minimum deuxième. Donc, il a quand même la pression là-dessus. Mais oui, bien sûr, mais c'est sûr qu'il n'a rien à perdre pour lui, parce qu'il fait une saison où il est remonté de nulle part. Sa voiture s'est beaucoup mieux comportée, il y a eu des vraies améliorations. D'ailleurs, si on se souvient, depuis Monza, cette nouvelle aileron avant aussi qui avait été apportée, on se trouve dans une situation où peut-être que la Red Bull, elle peut aussi être assez compétitive, je pense, ce week-end. On va bien voir. Mais bien sûr qu'il n'a rien à perdre. Et au contraire, il a encore plus de... Il peut mettre des bâtons dans les roues, finalement, d'Alain de Norris. Parce que, imaginons, il vient batailler, mais en tout cas jouer le haut du panier avec Lando. Bah, peut-être que Piastri, voilà, on va se dire, Piastri, il va en bénéficier et peut-être finir mieux. Voilà, c'est plus.
En tout cas, c'est clair que si Verstappen, il doit se jeter dans un virage, quitte à frotter avec Norris, il ira.
Voilà. Et après, je pense aussi qu'il peut aller chercher la deuxième place. Au vu de la dynamique négative de Piastri et lui de la sienne, sur trois courses. C'est possible aussi qu'il aille chercher une deuxième place, ce qui serait déjà...
Moi, pour nuancer, je trouve juste que, pour le coup, il a plus de pression qu'il y a un mois. Parce que, comme vous l'avez dit, il revient de tellement loin.
Mais c'est vrai que là, ça devient un peu palpable, je vois ce que tu veux dire.
Mais c'est ça. Vous connaissez tous la Fédération Française de la Loose, un site sur les réseaux qui... loue les défaites dans le sport français et qui a une devise, c'est le pire, c'est l'espoir.
C'est pas faux.
Verstappen, il espérait rien. Et là, je suis d'accord avec vous. On est il y a deux mois, il commençait à regagner des courses. Les autres ne marquaient plus trop de points. Il redominait un peu le tout. Là, il avait rien à perdre et tout. Mais là, maintenant, qu'ils se sont créés l'espoir, qu'ils ont commencé à dire « Attendez, on n'annonce pas le deuxième pilote. Tout le monde reste sous pression. » Verstappen a commencé à avoir une communication claire sur le fait qu'il n'y croyait pas avant, mais que là, ils vont jouer le titre. Tout ça, la pression, elle réapparaît et tu te dis, oh là là, le coup qu'on pourrait leur faire là, on pourrait leur faire la nique, quoi, clairement. Ça serait incroyable, ça serait historique. Tout le monde était dithyrambique sur le fait de s'il fait ça, ce sera le plus grand de tous les temps. Et donc, je pense quand même qu'il aurait aujourd'hui bien les boules de que ça lui échappe, même s'il relativisera très vite, parce que comme Séraphin l'a dit, il partait de trop loin. Mais quand même, là, je pense qu'il s'est remis une pression récemment, et surtout avec Sao Paulo qui marche pas, il y a peut-être une pression, une espèce de « Ah, ça va pas le faire !» qui peut jouer en sa défaveur ou en sa faveur, d'ailleurs, parce que lui, la pression, il gère bien.
Même Sao Paulo, où il fait une course, on l'a dit, exceptionnelle, Lando a quand même fini premier. Là, ça fait deux fois d'affilée que Lando, il fait une course deux fois incroyable au Mexique et à Sao Paulo. Donc moi, je dirais, oui, pour moi, il y a deux courses, il y avait vraiment des chances. Moi, aujourd'hui, je trouve que même s'il est clairement, il fait encore des courses incroyables, mais Lando, il est quand même encore au-dessus avec sa voiture. Et il y a quand même 49 points d'écart à aller chercher.
Et surtout, on voit que quand les pilotes dans la voiture orange mettent tout bout à bout, en fait, la Red Bull, elle joue pas. Et que si Verstappen, il en est encore là,
il le sait.
C'est parce que ça a été les faiblesses d'en face. Alors, évidemment, leur force aussi, leur remise en question, l'arrivée de Mekies, plein de choses, évidemment. Mais... c'est aussi, McLaren, avec la domination qu'ils ont eue cette saison, ils auraient dû nous l'emballer déjà, ce championnat. Quoi.
C'est une certitude.
Donc on peut les remercier, nous, parce que du coup, on parle encore. Là, tu vois.
Mais on a la sensation qu'à Las Vegas, justement, c'est peut-être le Grand Prix où tu te dis que McLaren va pas être ultra dominant du tout. Surtout qu'en plus, même Norris le disait à Sao Paulo après le Brésil, il disait au final on n'était pas si dominant que ça, il y a des circonstances de course qui font que j'ai pu dominer, mais ils n'étaient pas larges non plus, quoi. Tu te dis qu'à Las Vegas ça peut vraiment s'inverser.
Les qualités de la McLaren qu'on louait pendant toute la saison, effectivement c'est moins présent sur ce type de tracé. Il n'y a pas de long virage en appui, la gestion des gammes elle va être peut-être un peu moins importante aussi. Au vu des températures, attention, ça reste difficile à dire exactement, mais je suis d'accord que la McLaren peut sembler un peu moins favorisée sur ce tracé. Il y a eu précédemment sur les deux Grands Prix, McLaren n'a pas été non plus aussi très compétitive, donc ça peut effectivement se resserrer avec de très curie, avec la Red Bull, avec la Mercedes aussi qui aime bien les conditions fraîches, donc ça peut jouer.
Les gars, on va revenir un petit peu sur Piastri et Norris tout à l'heure parce qu'il y a eu des déclarations d'Oscar Piastri qui, bah, moi, m'ont fait un peu bondir et je voulais vous entendre dessus. Quand tu es en train de te friter pour un titre de champion du monde, même si tu fais partie de la même écurie, moi, je me dis quand même que la messe est dite. Mais on y reviendra en fin de podcast. Juste, il y a un gros débat qui agite l'actu. Ce sont les déclarations de John Elkann, président directeur de Ferrari, qui, lors d'une opération commerciale après le Grand Prix de Sao Paulo, s'en est pris ouvertement à ses pilotes. Et d'ailleurs, c'est plutôt rare de l'entendre, John Elkann. La prise de position, elle était forte. Alors, je vais pas vous lire toutes les déclarations d'Elkann, mais je vous rappelle qu'on sort d'un Grand Prix où Ferrari a fait un zéro pointé, et pour le coup les pilotes n'y sont pas pour grand chose puisque Leclerc a été poussé dehors et que Lewis Hamilton a subi des problèmes mécaniques. Mais Elkann, en gros, il a dit il est important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins. Derrière, il a dit que, en gros, l'écurie avait fait des progrès, que les ingénieurs avaient progressé, que la voiture était meilleure. Et il a mis une balle à ses pilotes. Je vous propose d'écouter la réaction de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. C'était à Las Vegas cette nuit au micro de Canal+, le diffuseur, sur ce déclat. Et on en parle parce qu'il met un peu le feu, John Elkann, et on sent quand même qu'il y a une petite crise qui couve à la Scuderia.
J'étais pas du tout sur mon téléphone à ce moment-là, donc j'ai pas vraiment suivi les news et je l'ai pas découvert comme ça, mais c'était avec un appel de John, puisqu'on s'appelle après chaque course, on se connaît depuis de nombreuses années, on a toujours été très proches, donc et ça change pas, donc ça a toujours été une des personnes qui a toujours été honnête envers moi, que ça se passe bien ou mal, et ça c'est important parce que c'est rare les personnes comme ça quand on est pilote Ferrari, en tout cas ça se fait de plus en plus rare. Donc j'en avais discuté avant de voir bien sûr les titres et je savais quelle était l'intention de ces mots, donc ça m'a pas surpris ou quoi que ce soit. Après, malheureusement, la manière dont ces mots ont été interprétés à l'extérieur, c'est pas de mon contrôle et c'est pas là où je me concentre, mais c'est plus sur les paroles que John m'a dit, et je sais que ça venait d'une intention où il voulait vraiment essayer de pousser le team vers l'avant, nous pousser à essayer de faire toujours mieux. Voilà, on est tous ambitieux, John le premier, on a tous envie de ramener Ferrari au top, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc la meilleure chose que je peux faire de maintenant jusqu'à la fin de la saison, c'est de continuer à donner de mon mieux en espérant qu'il y ait une course, une victoire au moins avant la fin de la saison, mais ça, on ne peut pas le promettre.
Exceptionnel communicant quand même Charles Leclerc. Je vous ai parlé de Lewis Hamilton. En fait, on l'a pas en son, mais je vais vous donner ses déclats. Bon, lui, il dit qu'il parle à John Elkann toutes les semaines, qu'ils ont une excellente relation, que il y a toujours de la passion autour de la Scuderia Ferrari. Il dit en gros qu'on a une pente à remonter, mais qu'on veut finir fort cette saison, qu'il connaît les intentions de Elkann, et c'est pour ça qu'il a pas pris les critiques personnellement. Bon, voilà, ils sont sur la même longueur d'onde, les deux pilotes, pilote Ferrari. Les gars, est-ce que ces déclarations d'Elkann, quand même, ça met un petit peu le feu? On en a beaucoup parlé, nous, dans le paddock. C'est une saison vraiment décevante pour la Scuderia Ferrari. Il y a moins d'un an, on faisait des podcasts où on annonçait le transfert du siècle, où on disait qu'on était ultra excités parce que la Scuderia terminait deuxième du championnat constructeur, qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un Charles Leclerc qui gagnait des courses, que tu fais venir le septuple champion du monde. Bref, tous les voyants étaient au rouge pour le coup. Et bim, tu te retrouves quatrième du championnat à trois courses de la fin. T'as pas gagné un Grand Prix. T'as un Lewis Hamilton qui est pas monté une seule fois sur le podium. On sent quand même que c'est ultra tendu, non? Là.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire en réalité.
Ouais, quand tu commences comme ça, là, c'est que tu vas me faire un truc dingue.
Franchement,
là, il est en train de me faire une disserte, là.
On pourrait faire une émission complète parce que je trouve que c'est un gros sujet. Et tu l'as dit, cette déclaration, elle est survenue donc après le Grand Prix du Brésil. Là, on est quand même 15 jours après et c'est un des gros sujets, évidemment, qui est abordé dès ce début du week-end. Donc, ça montre l'impact qu'a eu cette décision. Et aussi, je le rajoute, mais il a eu ses propos au lendemain du titre de Ferrari en hypercar, donc en championnat du monde d'endurance.
Oui, il était à Bahreïn, je crois,
Exactement, il était à Bahreïn, c'est Toyota qui a gagné la course, mais en tout cas, Ferrari était titré pilote et constructeur. Donc, ça venait aussi dire, regardez, en WEC, on est capable de réussir à tout mettre en ordre et de gagner, alors qu'en Formule 1, même si pour moi, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Mais certaines personnes, en tout cas, peuvent l'interpréter de cette manière-là. Mais donc, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, si on veut essayer de faire assez simple, moi, je trouve que oui, cette déclaration, la manière des propos, comment c'est mis sur la table, c'est pas la bonne manière de le dire. On peut comprendre que, en tant que président de Ferrari, il y ait des attentes qui soient négatives parce que c'est Ferrari, on connaît le prestige de la marque, ils ont réussi dans d'autres compétitions à le faire. Donc, évidemment qu'on est déçu pour les fans, pour l'image. Tu l'as dit, il n'y a aucune victoire cette saison. Il y a Charles Leclerc qui, à bout de bras, fait 7 ou 8 podiums, je ne sais plus exactement, mais
7.
7 podiums. Donc, il essaye à bout de bras de soulever l'équipe. Et on a Lewis Hamilton qui est, oui, décevant, qui n'arrive pas avec cette monoplace. Et il a eu des déclarations aussi lui-même cette année, très, très négatives à son sujet, on l'a
Après
dit.
Le Brésil, il a dit que c'était un cauchemar.
Voilà. Il y a dit, plusieurs, la Hongrie aussi.
En gros, il dit, je suis contrasté entre le fait de toucher mon rêve parce que je pilote pour cette équipe et le cauchemar des résultats qu'on a. Voilà les déclarations d'Hamilton.
Mais pour moi, en fait, de dire cette déclaration-là, bah, en fait, non, c'est, il faut des fois souligner les choses négatives et c'est important pour pouvoir s'améliorer et rebondir. Mais la manière d'où il le dit et s'adresser aussi du coup aux pilotes en disant qu'en fait c'est aussi à cause des pilotes et faut qu'ils roulent vraiment plus, bah c'est pas la bonne solution parce que les pilotes, on l'a dit, ils font ce qu'ils peuvent et faut dire qu'aujourd'hui la Formule 1, la voiture est quand même essentielle. Donc si t'as pas une bonne voiture, t'as avoir des bons pilotes, bah ça joue énormément. Donc derrière, bah, il y a aussi un travail malheureusement de Maranello et de l'écurie, de la voiture qui sort au niveau de l'usine, le moteur, le châssis, tout. On rappelle quand même cette saison, on le rappelle, mais Ferrari a changé quasiment à 99% sa voiture. La voiture de 2025 était toute nouvelle. On a pris une décision, c'est-à-dire qu'on a battu un plafond de verre l'année dernière, voilà. Donc on a voulu repartir sur une nouvelle.
L'année dernière, tu gagnes 5 fois, Serafin.
Exactement, tu gagnes 5
3 pour
fois.
Leclerc, tu en as 2 pour
C'est
Sainz
ça.
l'année
Et tu
dernière.
joues jusqu'au dernier Grand Prix, la deuxième place au championnat du monde constructeur. Donc c'était fabuleux et c'est pour ça, c'est que l'attente, évidemment, au début de saison, on l'a dit déjà, mais il y avait une attente énorme. Et donc bah c'est sûr que eh ben voilà, il y a une vraie déception. Mais ouais, non, moi je comprends pas trop cette déclaration venue en fin de saison en plus. Donc c'est rare qu'on leur remet un on leur remet un pavé sur la marque. Les gars, ils viennent de sortir de
Sur la marque, carrément. Et le pavé, il a ricoché.
On sort d'un double DNF et tout. Donc non, j'ai du mal à comprendre. Il aurait pu effectivement avoir une déclaration, mais les mots n'étaient pas choisis. Les mots n'étaient pas les bons, je trouve.
C'était peut-être un peu brutal. Après, moi, franchement, Louis, le gars, il allonge quand même 110 millions d'euros pour Leclerc et Hamilton, hein, par an. Si tu cumules salaire, prime, tout ça, enfin, je veux dire, c'est colossal le budget
Ah, mais
pilote
combien il gagne
qu'il met.
aussi?
Oui,
Non,
non, mais
mais.
je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le truc, c'est que tu avais tellement d'attentes et tu as clairement monté une équipe pour aller chercher ce titre 2025. Il faut le dire quand même. Il faut quand même le dire. On a beau, bien évidemment, on peut être dans la com et croire tout ce que nous dit Fred Vasseur, croire ce que nous dit Ferrari, c'est de la construction. Lewis Hamilton qui nous disait, moi je suis là pour apprendre. Quant à Leclerc, Hamilton, que tu termines deuxième l'an dernier, que tu as gagné 5 fois, 3 victoires pour Leclerc, 2 pour Sainz, t'attaques 2025 pour gagner. Et tu fais un énorme flotte. Moi, je comprends qu'il mette un petit tir. Alors après, il est peut-être un peu brutal, Elkan, Louis. Mais au final, est-ce que ça lui donne forcément tort?
Non, dans les faits, il a pas tort. C'est après, c'est pour le coup, c'est comment dire, c'est une analyse de com. Est-ce que sa com est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Parce que ce que dit Leclerc dans ces 1 minute 13 de son passionnant qu'on a entendu,
Il est
robinet
très
d'eau
fort.
tiède, terrible. On
Et
t'adore, hein,
pourtant,
Charles, hein,
il est pas du
là.
tout. Non, mais c'est pas du tout en plus son profil. Donc là, tu sens
Ouais,
que voilà,
tu sens que là, il pesait chaque mot. C'était assez drôle à écouter. Mais oui, non. Elkan a raison de dire ça. Elkan met une pression. Mais ce que je disais, c'est que l'important, c'est de le dire au téléphone à Charles, comme il le disait dans le son, ou de le dire à ses pilotes comme ça. Après, la communication
Mais
de
tu
le
penses qu'il
dire.
l'a pas fait? Moi, je
Ben,
pense qu'il va
bien.
faire
Ah, bah
passer un
si,
message.
si, si,
Ah, mais
si,
bien sûr.
justement.
Là, c'est public
Et
aussi ce
que
qu'il veut dire.
voilà, la différence, c'est que là, il a choisi de le faire pour tout le monde. Là, tout le monde est au courant. Donc, c'est un peu le côté. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de pression sur Fred Vasseur avant reconduction, en début de saison. Il y a eu même des rumeurs comme quoi il pourrait sauter à tout moment. Finalement, bon, ça avait l'air d'être assez infondé puisqu'il a été prolongé. Peut-être qu'il s'est dit, bon, tout le monde en a pris pour leur grade cette année, mais je mets un tir aussi aux pilotes. Comme ça ça fait chacun sa petite remontrance parce que comme tu le dis, il remarque que tout a été fait pour être tout en haut. Et bah non, ils y sont pas, ils sont même plutôt loin, ils font une saison qui devrait se terminer à moins d'une surprise, d'un miracle, sans victoire. Et sauf que là, il y a une nouvelle réglementation qui arrive et qu'il doit se dire aussi, on va pas se rater chaque année, donc peut-être qu'il met la pression là en novembre pour bien faire comprendre que en 2026, s'il n'y a pas de résultat, ça sera la fin. Mais là, il est aussi un peu coincé par la période. Hein. Tu ne peux pas faire grand-chose là. Hein. Tu es en fin de réglementation, tu as déjà fait beaucoup de changements, tu as prolongé ton team principal. Tes pilotes, que ce soit dans leur carrière quand même, ce n'est pas des tirs au flanc, on le sait. Donc normalement, c'est aussi des pilotes très talentueux, on le sait. Donc bon, t'as un line-up, il n'y a pas non plus... Enfin, comment dire, soit c'est trop tard pour s'inquiéter, soit c'est trop tôt pour s'inquiéter. Mais là, le moment, ouais, il est un peu entre les deux. Et bon, bah là, ouais, faut finir comme ça. C'est pour ça que moi, je trouve que ça coûte pas cher non plus ce qu'il a fait. Parce que lui, du coup, ça le dédouane un peu. Parce que lui, il commençait à être pointé du doigt. Parce que tu c'est le capitaine du navire que tu pointes du doigt aussi quand ça va pas. Donc lui, il s'est dit, oula, attends, ça chauffe un peu. Je vais remettre tout le monde devant ses responsabilités. Ouais, ouais, les pilotes aussi, il faut qu'ils se concentrent. Bon, voilà, ça coûte pas cher.
Est-ce que on voit toujours chez Charles Leclerc un potentiel champion du monde? Oui. Il a 28 ans, il a gagné 8 fois, il a 50 podiums. Il a des scénarios qui font que bah, pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de se friter pour un titre, mais on ressent
pourquoi,
encore
oui,
potentiel champion. Ouais,
pourquoi oui? Parce que cette question, il était encore jeune et il avait le temps, mais je me la posais pour Norris, en fait, quand il n'avait pas la voiture. Ouais. Alors, il n'est pas champion du monde, attention, hein. Ouais, peut-être que je sais des choses que vous savez pas, mais en plus tu sais que moi les pronostics, les prévisions, tout ça, c'est vraiment mon c'est terrain, vrai, quoi. Mais Norris, c'est un truc où je me disais, et en fait finalement il y a un moment quand t'as la voiture, les gars, c'est des sacrés pilotes, quoi. Et Charles, il l'a montré dans sa jeunesse, à chaque fois que il a pu le faire, il l'a fait. Et donc, moi, je suis pas inquiet. Mais ouais, il y a un moment, il lui faudra inexorablement une voiture qui, tu vois, un peu comme Verstappen, c'est-à-dire l'équivalent d'une Red Bull. C'est-à-dire que s'il n'a pas la première voiture, il lui faudra la 1 bis. Tu vois, il faudra qu'il joue dans la même cour. Et là, il pourra faire des merveilles. Mais tant qu'il est comme ça, sur là, aujourd'hui, cette année, on parlait de quoi? 3e, 4e force, peut-être. Enfin, là, c'est impossible, comme le disait Séraphin en début de podcast, quand même. C'est l'essentiel, c'est la voiture. Donc, c'est impossible pour lui de faire des miracles vrais, des réels, quoi. Mais en revanche,
il en
a
fait
une
quand
voiture,
même. Hein.
Et ouais,
il y a des podiums, il fait ce qu'il...
Bien sûr. Mais moi, j'ai aucune inquiétude. Si tu vois, l'année prochaine, la Ferrari fait partie du top 2, je peux mettre un billet sur Charles. Ouais, clairement.
Ouais. En tout cas, ses propos ont visiblement soudé un petit peu la Scuderia. Pour le coup, c'est ce qui ressort un petit peu du paddock, Séraphin, c'est que ils se sont un peu ressoudés, ils se sont un peu reconnectés après les déclarations de John Elkann. Et c'est vrai que pour le coup, cette saison se déroule pas bien, mais depuis que Frédéric Vasseur est arrivé, on ressent quand même ce travail collectif, cette envie de progresser ensemble, même si c'est dur. Alors qu'il y a eu des années chez Ferrari où on sentait que l'équipe était complètement disloquée, que chaque secteur tirait dans son coin sans trop se consulter. Voilà, là c'est pas le cas. Tu sens quand même qu'il y a une cohésion encore dans cette écurie, non?
Il y a une cohésion, même si je pense qu'il y a encore du travail à faire. Oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Rien que la gestion, évidemment que du point de vue du public, on a vu la gestion par exemple des arrêts au stand qui étaient loupés. On disait c'est honteux de ne pas réussir des arrêts au stand corrects ou d'avoir des problèmes pour une écurie de Formule 1. Ça a été résolu. Il y a plein de choses qui ont été résolues. Et donc c'est là où c'était une très bonne décision de garder Frédéric Vasseur et de le faire continuer pour cette réglementation qui est considérable pour 2026. C'est important parce qu'on solidifie les bases que Frédéric Vasseur a amenées. Après, il y a eu quand même beaucoup de turnover aussi en interne, hein, de gens. Récemment, il y a aussi celui qui gérait le moteur qui est parti. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur la voiture qui ont changé, le XR aussi par exemple. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça a ressoudé Peut-être, en fait, c'est dans les moments durs, c'est souvent le cas, hein, c'est dans les moments difficiles que, bah, évidemment, on se ressoude parce qu'on se rapproche.
Ouais, tu crées quelque chose.
On subit le moment dur sur le moment. Et je pense que même Lewis Hamilton le dit, bah, c'est dans ces moments-là très très durs où il se voit nulle part. Qu'en fait, il apprend des choses encore nouvelles, je pense, sur lui-même.
Ça fait six mois qu'il dit ça, Lewis aussi. Hein.
C'est sûr, toute la saison, ça a été un calvaire. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à voir l'année prochaine. Et la question de Charles Leclerc. Oui, Charles Leclerc, il a le potentiel pour être champion du monde. Mais ça fait 7 ou 8 ans que la voiture, à chaque fois, il lui manque le petit quelque chose. Bon, en tout cas, ils sont tombés sur meilleur qu'eux, comme la Red Bull ou plus récemment. La McLaren. Donc, il n'y a plus qu'à voir. Je pense qu'il y a tout un peuple maintenant qui soutient toujours d'ailleurs Ferrari. C'est dans ces moments-là aussi où il faut que derrière il y ait du soutien et ils le sentent au quotidien. Rien que sur les Grands Prix, Imola, Monza, on voit que dans ces moments difficiles de cette année, il y a toujours du soutien. Et maintenant, bah, on avance, on creuse, on s'améliore. Et là, le boulot maintenant, bah, il se fait dans l'usine en fait. Hein. On crée un moteur. On est motoriste. On crée un châssis. Tout est nouveau. Donc, s'il n'y a pas le matériel, ça va jouer dans leur défaveur.
On sait que là, ce coup derrière, ça déchaîne les passions. On sait que c'est un environnement que t'as pas ailleurs. On sait que c'est très particulier et que tu peux pas.
C'est l'équipe nationale.
Tu peux pas faire le même bilan avec la Scuderia Ferrari qu'avec une autre écurie, même si c'est une écurie qui se bat pour le titre. Ça, c'est une certitude parce que le contexte est tellement spécial. Par contre, tu ressens quand même qu'à travers ces déclarations, moi je suis d'accord avec Louis. En gros, il les fait sur une période de l'année, Elkan, où il met personne en danger. Parce que bon, soit tu vas chercher une victoire dans les trois dernières courses et c'est bingo. Soit au final, qu'est-ce que tu fais ? Là, tu es quatrième au championnat constructeur, donc tu ne peux pas tomber bien plus bas. Tu ressens quand même une vraie pression sur 2026. Et attention au début d'année 2026, parce que ça peut être vraiment, je pense, un moment charnière dans cette nouvelle réglementation pour la Scuderia Ferrari. Il y aura des enjeux contractuels aussi pour les pilotes.
Ouais. C'est un enjeu aussi pour la prochaine.
Et ça peut vraiment péter. Ça peut vraiment péter. Et je pense que cette déclaration, on le sait tous, hein, mais cette déclaration est loin d'être anodine. C'est un avertissement un peu en mode, bon les gars, cette saison, ok, concentrez-vous. Ouais. Par contre, l'année prochaine, hein, on va arrêter les bêtises.
Voilà. Ouais, je pense que ça. Et puis même, je pense que ça pourra aller assez vite, quoi. Je leur conseille de faire un podium sur les deux premiers Grand Prix, comme parce que
c'est
sinon
sûr que
ils font...
sur les 5-6 premières courses, tu perfes pas. Ouais. Ça peut.
Si tu fais du 6e, 9e, ça va. Oula. Ça va être.
Moi, John, je serais un peu plus nuancé parce que il va falloir mettre du temps pour roder l'année prochaine. Hein.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais tu sens qu'il a pas de temps.
Mais tu sens que lui, tu vois, lui,
sens que lui, là, il est plus rien. Là, il est plus dans le temps. Il est en fait pour lui, son espace-temps n'est plus le même que le nôtre. Et lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Tu le sens.
C'est des résultats, mais on construit. Il faut quand même du temps pour construire.
Mais le temps n'a pas de temps.
Oui,
moi, je peux arrêter le temps de ma montre, mais le temps s'arrête pas.
Excellent, très bonne référence si vous avez Thierry Henry,
le grand Thierry Henry, du pied droit.
Excellent Louis Gerbier. Je suis d'accord avec toi, Séraphin, on est tous d'accord qu'un projet ça se monte avec le temps, mais tu sais ce que c'est, des fois t'as des pressions financières, politiques, médiatiques, populaires aussi quand t'as la Scuderia Ferrari, qui font que malheureusement, même si la logique c'est de laisser du temps à une écurie parce que t'as une nouvelle réglementation, il y a des fois tu peux plus tenir cette pression et tu fais des choix et tu tranches dans le vif. Ouais, je le sens vraiment comme ça pour le début de saison.
C'est sûr qu'à sa place, c'est sûr que Lewis Hamilton, c'est un investissement parce que tu fais venir le pilote le plus talentueux actuellement, en tout cas une légende, et donc tu le payes beaucoup pour faire venir effectivement chez nous. Donc c'est sûr que derrière il se dit maintenant je veux qu'il y ait des résultats, c'est sûr.
Mais de toute manière les gars, on va se faire dans le débrief de la saison, on va se faire un podcast 100% Lewis Hamilton, va falloir qu'on en parle, va falloir qu'on se penche sur sa saison, va falloir qu'on se penche aussi sur l'investissement qui a été fait par Ferrari pour attirer Lewis Hamilton, parce qu'il y a un vrai débat là-dessus, mais on aura le temps d'y revenir. Les gars, je voulais quand même vous entendre sur ce qui se passe du côté de McLaren, parce que c'est tout mignon ce qui est en train de se passer. Il y a Oscar Piastri qui fait des petites déclarations sur sa relation avec Lando Norris. Est-ce qu'on a une petite musique pour vous donner cette petite déclaration d'Oscar Piastri? Ah, voilà. Alors, Oscar Piastri qui parle de Lando Norris. et de sa relation. Podcast Beyond the Grid, donc podcast officiel de la Formule 1, il dit: je pense qu'honnêtement c'est mieux qu'avant avec Lando. Si je devais choisir, nous nous connaissons mieux maintenant et nous en sommes à notre troisième année en tant qu'équipier. Nous avons appris à nous connaître petit à petit. De ce point de vue, notre relation est meilleure que jamais. Je pense que nous sommes tous les deux le genre de personnes qui considèrent que ce qui se passe sur la piste, ça reste sur la piste. Il y a des émotions passagères, mais entre nous, tout va bien. Voilà Oscar Piastri avec Lando Norris. C'est un peu le monde des bisounours.
Ah, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Jean-Luc là.
Ah bah, déjà Jean-Luc, on lui met l'avis des bisounours, à mon avis, ouais. Là il se régale. Non mais franchement Louis, moi franchement j'ai lu ça. Je me suis dit déjà deux choses. Ok, je me suis dit Piastri, ça y est, il a lâché l'affaire. Rideau.
Ah, à ce point-là.
Mais en fait, je me dis qu'avec ce qui s'est passé dans cette saison, la dynamique que t'as, t'es quand même encore à la lutte pour le titre. Alors, je veux bien que t'aies des discours un peu polissés parce que tu te dis, je peux avoir une opportunité, je veux pas me mettre une écharde ou une épine dans le pied parce que si je fais une grosse déclat, voilà, l'écurie va me crucifier. Tu vois, ça, je peux l'entendre. Mais là, trois courses de la fin, 24 points de retard après ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est surjoué, quoi. Ce storytelling,
ah oui,
tout va bien entre nous,
oui, oui.
On a joué le jeu jusqu'à la fin, tout le monde a eu sa chance, mais là c'est trop, ouais. C'est trop.
Après c'est le meilleur discours à avoir maintenant, comme tu le disais, pour continuer à avoir une chance sans trop de pression, tu vois. Tu te ranges un peu comme si t'étais, pour moi tu peux pas, il va pas le lâcher avant le dernier tour d'Abu Dhabi, même si ça comme sa communication peut paraître étrange ou quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, les propos, ça paraît assez lunaire. Tu dis, mais vous vous battez pour le titre. Bon, après, ils ont raison aussi, hein, faut que ça reste sur la piste. T'as pas besoin
Ça reste du sport, hein, c'est pas la guerre.
Exactement,
mais, c'est,
exactement, mais c'est vrai quand même que tu entends globalement dans pas mal avec les anciens champions, les anciens sportifs, que tu vois, même juste Hamilton Rosberg, tu vois, genre c'est. On part de deux meilleurs potes qui se détestent à la fin parce qu'en fait, il y a un moment, la rivalité, la pression, l'enjeu, le rêve d'une vie, tout ça fait que il y a trop et tout peut exploser. Donc, te dire que deux mecs comme ça, qui en plus qu'on a opposé toute la saison et de fait, c'est normal, ça me paraît dingue. Mais peut-être que c'est deux moines bouddhistes, hein, peut-être qu'ils sont supérieurs à nous, tu vois, et bravo à eux, parce que moi je trouve que c'est, tu vois, si je prends le truc premier degré naïvement, je me dis mais c'est la super attitude, enfin tu vois, c'est le rêve un peu, tu fais du sport à fond comme avec tes potes sur la piste de karting, ça se rentre dedans, au pire tu dis ah, il est nul ou il est con pendant la course, puis après tu bois une bière ou pas. Mais là, moi, ça me paraît quand même un peu, voilà, exagéré, parce que bah, tu te dis c'est trop, c'est trop, voilà, c'est trop gros pour être vrai, quoi. Mais bon, je le décorèle quand même. Enfin, pour moi, ça traduit pas un abandon du championnat.
Oui,
ça traduit plutôt, fais plaisir pour la com, là, j'en fais des caisses.
Je suis un peu extrême dans ce que je dis, parce qu'en plus, je pense que ça peut très bien se passer humainement entre les deux pilotes. Je dis pas qu'Oscar Piastri ment totalement. C'est juste que je trouve qu'encore une fois, Sarafin, le timing, il est surprenant. Il y a peut-être un moment où tu peux faire ce genre de communication. Alors après, on lui a posé la question, il a répondu, Oscar Piastri. Hein. C'est aussi les journalistes qui sont dans le paddock qui vont chercher ce genre de réponse. Mais je sais pas. Il y a un moment où tu peux aussi dire oui, bah, ma relation avec Norris, elle n'a pas évolué. Voilà quoi, ça a toujours été cordial. Et puis on va faire la course jusqu'à la fin. Tu n'es pas obligé d'en rajouter. Là, j'ai l'impression qu'en fait, McLaren veut vraiment tout faire dans les éléments de communication, que ce soit Andrea Stella, que ce soit Zach Brown avant le Brésil, que ce soit maintenant les pilotes, pour dire que non, tout était beau, tout était nickel, la lutte a été 100% équilibrée, que Lando Norris fera un beau champion. Et moi, je pense que ça fait un beau champion, en plus, Lando Norris, s'il est titré champion du monde. Mais tu vois, j'ai l'impression que tout est surjoué, en fait.
C'est aussi le problème aujourd'hui, c'est un constat, de la surmédiatisation, parfois, de la Formule 1. Et effectivement, il y a beaucoup de sollicitations entre effectivement, les interviews à donner, les podcasts, les médias, etc.
Oui, mais t'es pas obligé de répondre comme ça, c'est Raphaël. Ils ont toujours été sollicités, les pilotes. Il y a eu quelques pilotes à l'époque où tu leur posais ce genre de questions. Ils disaient, bah, un peu, bah, merde, j'ai pas envie de répondre.
C'est
quoi,
ça,
en gros,
en fait, c'est, non, mais du coup,
ils savent ne rien dire. Ils savent ne rien
voilà,
dire.
Écoute, exactement.
Charles Leclerc, en 1 minute 13, il a rien dit. Donc, ils savent c'est rien vrai. Dire, tu vois.
Non, mais le problème, c'est qu'ils doivent tellement répondre à tellement de choses qu'en fait, bah, ils lisent, en fait, beaucoup de choses. Et en fait, on va interpréter. C'est un peu un phénomène de comment aujourd'hui aussi on médiatise en fait ce sport. Et du coup, dans les déclarations, effectivement, tout est aseptisé en fait par rapport à avant où effectivement on disait facilement ce qu'on pensait. Aujourd'hui, on sait que ce qu'on va dire va avoir tellement de répercussions sur autre chose, tout ça, qu'on en fait on se retient. Donc c'est sûr qu'entre l'image de façade et effectivement les teams principaux, ils jouent aussi leur rôle de cet aspect-là vis-à-vis de ce qu'ils peuvent dire. Donc en fait, on a du mal à accepter d'écouter la critique ou des choses. Donc ça vient de son à un moment donné où, et d'ailleurs dans ce podcast aussi j'ai vu des déclarations comme quoi et c'est là où au fond de lui en fait c'est un warrior, c'est un pilote, donc on sait très bien que c'était un peu lissé parce que l'événement de Monza en fait avec cet arrêt qu'il a dû laisser passer de Norris à cause de l'erreur de stand, plus aussi l'incident de Singapour où Norris il va vraiment faire la course et oui bah il vient attaquer un peu Piastri, bah ça il a reconnu que c'est des choses qui lui ont pas plu. Donc en fait, on sait très bien que il a laissé passer un titre clairement. Et en fait, comme depuis la fin de saison, depuis un an ou deux, bah, les fins de saison pour Oscar Piastri, elles sont dans la difficulté, elles sont dures clairement. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Il faut encore qu'il a pas la même épaisseur que maintenant a atteint Lando Norris. Donc il y a pas vraiment à commenter, je trouve, ce genre de déclaration parce qu'en fait
je vous ai vendu un faux débat. C'est dingue. Moi, je me suis dit, je vais faire un truc, ça va être nickel. On va faire les bisounours de chez McLaren. On va mettre. Oh là là, là, là. Mais t'as raison, t'es gonflé un peu là.
La Formule 1, elle a changé. Moi, je te le dis. Avant, il y avait. C'est la journée des refs discrètes.
Toi, t'attaques beaucoup trop fort les trois derniers grands prix.
Mais c'est vrai parce que, je vais pas faire le vieux boomer, mais c'est l'époque des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, t'as des sponsors, t'as beaucoup d'enjeux. Tu vas faire un truc pas polissé, trop corrosif. Ça peut à la fin dégringoler avec un partenaire qui a une fanbase qui n'accepte pas, qui se débranche. Alors que, à une autre époque, bon, déjà, il y avait une liberté de ton peut-être supérieure. Parce qu'il y a une autocensure qui se crée justement par peur de se prendre des shitstorms sur rien en fait. C'est des déclarations, tu vois. Et donc ça tend tout le monde. Mais nous,
tu sais pourquoi je te dis ça, Loulou ? Ouais. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, cette décla, ça tranche totalement avec la personnalité d'Oscar Piastri sur le début de saison et sur ce qu'a été ce mec-là. Je sais pas, nous on l'a comparé à Iceman, on a dit que c'était un mec, tu vois,
tueur.
On n'arrêtait pas d'utiliser l'expression tueur à sang-froid et tout ça, on n'a pas arrêté de le dire. Et là, ça devient un bisounours.
Ouais.
Mais tu vois, ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas, je sais pas. C'est pour ça que moi, après,
mais ça a toujours
été
un tueur en piste, mais toujours très bon petit bon garçon, assez lisse en dehors. Il a jamais eu envie de jouer la carte bad boy Max Verstappen bam.
Et le move comme d'Alpine au moment où il arrive en F1 où il fait
ouais
le message,
mais là il a montré que voilà,
il a montré
moi je suis poli, je suis lisse ou quoi, mais on vient pas me souffler dans les bronches quoi.
Ouais.
Donc mais là ouais, cette fin de saison elle est pas bonne pour Oscar quoi.
Bon les gars, juste avant cette fin de podcast, petit prono là pour Las Vegas. Première question, est-ce que Lando Norris est champion du monde ce week-end ?
Pas assez. Non, moi je dirais non.
Non.
Bah je dis oui du coup, comme ça au moins.
D'accord. Et petit prono pour qui va le mieux s'en sortir. Faites-moi votre podium tiens à Las Vegas un peu là. Qui on voit ? J'ai vu que les Mercedes, George Russell disait non, on n'est pas favori. Ils ont fait un doublé l'an dernier.
Ouais.
On se voit pas favori ce week-end.
Verstappen sur le podium.
Verstappen sur le podium.
Moi, je vois, puisque je vais rester cohérent quand même, je vais dire Norris qui gagne, du coup.
Ouais.
Verstappen podium, c'est pas très, c'est, il sera troisième, parce que sinon, Séraphin nous l'a dit tout à l'heure, il serait encore dans la course pour être champion. Donc, voilà, je reste cohérent. Et donc, en deuxième, allez, une classique. Tiens, je vais faire un Norris, Piastri, Verstappen, tout simplement. Et je parie sur un nombre de casques Las Vegas avec des cartes, des jeux de cartes, des dés, machin, 18 sur 20 et ça va me saouler.
Ah, y a plein de livrets spéciaux en plus. Pour
ah ouais, il y en a beaucoup.
Allez sur le compte Instagram.
Et on n'a pas trop parlé, mais il ne faut pas enterrer non plus les petites écuries. Il y a eu quelques petites surprises cette année. Ouais, moi, j'ai vu des propos de Carlos Sainz qui se voyaient plutôt rassurants, par exemple dans la Williams sur un tracé.
Bon, fais-nous ton petit podium.
Je vais peut-être pas aller mettre une Williams sur un podium, mais en tout cas, viser peut-être un top 6, c'est possible.
Ouais.
Et après, pour ce qui est du podium du coup samedi soir, hein, parce qu'officiellement la course est samedi, je vais mettre George Russell, je vais mettre Lando Norris et Max Verstappen 3e.
Excellent, pas de Ferrari. Il va être content, John Elkann.
Ah, c'est le samedi soir si vous êtes sur place, hein, mais si vous êtes en France, ça sera dimanche à 5h du mat.
Et ouais, il va falloir se lever tôt. Là.
Dimanche à 5h du mat.
Appliquez la technique de Luigi, vous dormez autant que vous voulez et puis vous mettez le replay canal au réveil avec le petit déj, sans spoil, et là vous êtes au top.
Et si vous n'êtes pas sur Canal ou sur RMC en direct, bien évidemment, Paddock RMC, débrief lundi, les gars. Voilà, le débrief de la course, tous les enseignements. Hein, on va se régaler.
Ouais. On va se régaler.
Et 20 points d'écart aussi, les gars. N'oubliez pas, entre la 6e place Racing Bull et Sauber 9e. Ça, c'est important aussi à suivre.
C'est vrai, t'as raison que dans le midfield, comme on dit, dans le milieu de plateau, là, ça se bagarre très fort. Non, mais il y a des enjeux partout, de toute manière. On va se régaler ce week-end. Les gars, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez nous mettre une petite note. Merci pour ce podcast. Est-ce qu'on se terminerait pas ce podcast avec la petite musique des bisounours quand même?
Si.
Hein? Ah! Et bah vous savez quoi, les loulous?
Vegas, ouais, ça fait un...
On vous fait tous de gros bisous!
Allez, gros bisous!
N'oubliez pas de nous mettre une petite note et on vous dit à lundi! Allez, bye bye!
Y'a rien de plus fou!
Le paddock RMC.